Et c'est parti pour le journal. Élodie Largenton, bonjour.
Bonjour Moreto, bonjour à tous. Démission massive d'adjoints à Toumara. Du coup, des élections partielles auront lieu le mois prochain dans cette commune de Raiatea. Mais ça ne veut pas dire que les élus ne s'entendent plus. C'est même tout le contraire. Les explications dans un instant. Un ancien magistrat et ancien conseiller juridique de Gaston Flosse est accusé d'avoir tenté de revendre des actes officiels de la reine Pomarée appartenant à la Polynésie française. Dans ce journal également, on découvrira le nouveau projet du pays pour le site de Faratea à la Presqu'île. On parle désormais d'une zone biomarine. Et puis c'est un groupe polynésien qui va faire la première partie du concert de Julien Clerc. Coconut Jazz a été choisi, vous l'entendrez. Le groupe a hâte d'être au 8 septembre à Toata.
Alors, retour aux urnes à Raiatea, dans deux communes de Toumara, le mois prochain.
Des élections partielles causées par le décès d'un élu et par la démission de la sénatrice Lana Tetouanoui. C'est aussi et surtout la conséquence de la démission collective de 7 adjoints et d'un maire délégué. Une démission massive qui n'est pas due à des désaccords ou des conflits entre élus. Au contraire, c'est un accord qu'ils ont passé entre eux lors des dernières municipales en 2014. Il s'agit de faire monter à mi-mandat d'autres élus à des postes de responsabilité. Ils avaient déjà fait ça en 2011.
Un ancien juge et conseiller de Gaston Flosse est accusé du recel d'actes officiels de la reine Pomarée.
Henri Renaud de la Favrie comparait mardi prochain pour recel d'objets provenant d'un délit. Comme le rapporte TNTV, cet ancien président du tribunal de première instance est accusé d'avoir tenté de revendre 6 actes officiels de la reine Pomarée appartenant à la Polynésie française. C'est une plainte du conservateur des archives du pays qui est à l'origine de l'enquête en 2015. Les précieux documents ont été retrouvés chez un antiquaire et rendus au pays.
Et un nouveau projet pour Faratea, plus question d'en faire un port international, une zone industrielle ou encore un hub de pêche. Le pays veut désormais transformer le site de la Presqu'île en une zone biomarine.
La première phase d'étude a été confiée à une société métropolitaine, Aqualog, spécialisée dans la création de fermes aquacoles. On parle déjà d'élevage de poissons, de crevettes, de crabes, de bénitiers ou encore de l'installation d'un système aquaponique qui associe la culture de légumes et l'élevage de poissons. Et l'idée, c'est d'aller vite, comme l'explique le directeur d'Aqualog, Serge Carl.
Alors j'ai été missionné par la DRMM, la Direction des Ressources Marines et Minières, pour faire une étude de programmation, de faisabilité technique et économique pour la création de ce lotissement Faratea, biomarine. Alors nous on doit travailler très vite puisque au mois d'octobre on doit rendre les premiers plans et au mois de décembre on doit avoir fini l'étude de programmation et le chiffrage des travaux pour pouvoir lancer de suite dans la foulée les missions de maîtrise d'œuvre et de construction.
Aqualog va aussi rencontrer les porteurs de projets qui ont répondu en juin dernier à l'appel lancé par le pays pour occuper le site de Faratea. Le ministre du Développement des Ressources Primaires, Teali Alpha, rappelle que le pays va prendre en charge l'installation des équipements. Il y aura notamment une station de captage en eau de mer et une station de traitement des rejets. Mais l'entretien de ces installations sera à la charge des entreprises qui occuperont la zone biomarine. Xavier Tajoali est l'un de ces entrepreneurs. Son projet date de 2011. Il attendait donc le début des travaux avec impatience.
Je porte le projet de l'élevage du crabe de Paris-Tuvie avec le tilapia justement pour donner du travail pour la jeunesse plus tard. Et donc, au point de vue économique, amener un petit renouvellement au niveau de l'économie. Donc, par rapport à tout cela, on est confiant par rapport à ce que le pays nous propose. Mais on est quand même en attente. Les paiements au niveau de la zone, les loyers, locatif au niveau des différents bassins, tout ça, on est en attente.
Les entrepreneurs ont fait part de ces doléances au ministre. Ils veulent bénéficier des mêmes aménagements fiscaux que les Chinois pour le projet Aquacold Ho. C'est prévu, répond le ministre.
Évidemment que le gouvernement ne souhaite pas une discrimination par rapport aux porteurs de projets locaux. Donc il y a eu une loi spécifique pour le développement des grands projets, et notamment ce projet de Ho. Et la fiscalité, bien sûr, doit être transversale et commune à tout porteur de projet dans le domaine de l'aquaculture. Bon, on n'est pas dans les mêmes niveaux d'investissement. On n'est pas dans ces montants annoncés par les Chinois. Mais la fiscalité, les intrants et les aides seront bien sûr les mêmes pour tout le monde.
Thierry Alpha, le ministre du Développement des Ressources Primaires, au micro de Valentine Bluet. Le pays se donne jusqu'au premier semestre 2018 pour démarrer les travaux d'aménagement.
Le secrétaire d'État à l'écologie, Sébastien Lecornu, sera bientôt au Fénois.
Très prochainement, même d'après la présidence. Le secrétaire d'État s'est d'ailleurs entretenu mardi à Paris avec le président du pays, Édouard Fritsch. Il a notamment été question des conséquences environnementales des essais nucléaires et des impacts du changement climatique.
L'Océanie convoitée. Après des colloques à Paris à l'UPF, un ouvrage recueille les réflexions d'une quarantaine de chercheurs du Pacifique, d'Asie et d'Europe.
Et l'idée, c'est de voir l'Océanie autrement, non pas comme un continent invisible, mais comme une région qui se retrouve au centre de nombreux intérêts économiques, mais aussi géostratégiques et politiques. On écoute l'historien et chercheur Jean-Marc Regnault.
Ça va depuis la convoitise des missionnaires jusqu'à la convoitise des grandes puissances, la convoitise de l'ONU, la convoitise des grands groupes touristiques. Donc on a essayé de montrer à quel point l'Océanie comptait beaucoup plus que les Occidentaux ne veulent bien le croire. Alors ne serait-ce que, puisque selon l'ONU, chaque État a une voix. Donc même un tout petit État de quelques milliers d'habitants compte autant qu'un État qui a 1 milliard d'habitants.
La diplomatie du carnet de chèques est en vogue depuis longtemps en Océanie, avec notamment la guerre que la Chine et Taïwan se sont livrés à distance pendant un temps. Dès qu'il y a un litige frontalier ou des problèmes de souveraineté, l'Océanie n'est pas oubliée ni invisible. Et ce n'est pas plus mal, souligne le politologue Semir Alwardi.
Ce n'est pas un mal, puisque cette convoitise permet aussi un certain développement économique des États indépendants qui ont des difficultés. Mais en même temps, on aborde ça dans le colloque, il y a la nécessité de se protéger, parce qu'il s'agit de ne pas se faire complètement déposséder de sa souveraineté. Et puis, en même temps, je démontre qu'il y a toujours eu une résistance en Océanie par rapport à tous ces apports, on va dire, exogènes, et que l'Océanie a toujours su se défendre parfaitement en océanisant pratiquement les pratiques politiques, économiques et juridiques.
L'ouvrage « L'Océanie convoitée » a été légèrement remanié pour sa sortie polynésienne, pour qu'il soit plus accessible. Ce n'est pas un livre de chercheurs pour les chercheurs. Une dédicace aura lieu samedi matin à la librairie Archipel.
Et puis le concert de Julien Clerc à Toata approche, c'est dans une semaine, le 8 septembre.
Et on connaît désormais le nom du groupe qui fera la première partie, Coconut Jazz. Depuis 3 ans, ces 4 passionnés de jazz proposent des reprises de standards internationaux et locaux, mais aussi des compositions. Le 8 septembre, ce sera la première fois qu'ils se produiront à Toata, mais ils ne sont pas vraiment stressés, ils sont plutôt pressés d'y être, comme le dit le pianiste Bruno de Mongeau.
Ouais, on est excité, on a hâte. On a qu'une hâte, c'est de passer, de faire connaître notre groupe au grand public aussi, parce qu'on joue souvent dans les petits restaurants, dans les hôtels, à Montréal et tout. Donc nous, on choisit un peu aussi où on veut jouer, de façon à ce que ça soit une musique qui plaise un peu à un public, hein, parce que c'est pas une musique que le grand public écoute aussi. Mais c'est vrai que là, je pense que ça colle un peu avec l'esprit de Julien Clerc. Et on a hâte de rencontrer une grande personnalité comme ça. C'est juste, ouais, c'est une chance pour nous. On n'a pas souvent accepté l'occasion de rencontrer. Moi, j'ai joué à l'Olympia il y a quelques mois, c'était déjà quelque chose de fort. Et je voyais des artistes sur les affiches et tout. Et puis là, je vais rencontrer une, c'est super.
Et cette opportunité de se produire en première partie de Julien Clerc, le groupe la doit à une visite sur le plateau de Thierry FM.
Mais on était passé déjà sur la radio Thierry FM pour un concert qu'on avait fait en Facebook Live. Et donc, on avait donné un support audio. Et donc, Aldo, qui a entendu notre enregistrement, on a parlé à l'organisatrice, à Sonia, et puis il nous a proposé notre groupe. Et elle a aimé, et puis ça s'est passé comme ça, et puis on a été choisi pour faire la première partie.
Et pour cette première à Toata, le groupe ne veut pas céder à la pression. Bruno de Mongeau.
On a déjà un répertoire assez solide, et vu qu'on anime peut-être, je pense, une demi-heure à peu près, donc on a juste choisi les chansons qu'on pense être bien pour le concert, et puis on va faire une ou deux répétitions pour se mettre au point. On n'a pas aussi trop envie de stresser et de faire. On va faire déjà des choses qu'on fait déjà, des choses qu'on fait bien, et puis on va y aller comme ça. Pas de pression, on va aller là-bas s'amuser aussi.
Bruno de Mongeau du groupe Coconut Jazz au micro de Valentine Bluet. Le concert, c'est donc le 8 septembre à Toata.